Okay.
On enregistre le cours, mais alors, Hanouka Sameach. Bezrat Hashem, donc, que le shiur d'aujourd'hui soit la mémoire de tout ce qu'on a rappelé et pour la guérison de tous ceux qui ont besoin. Et pour nos soldats qui sont en réalité les Maccabim de notre époque. Kadosh Baruch Hu les accompagne et les protège et leur fasse réussir leur mission. La Gemara, lorsqu'elle parle de Hanouka, elle utilise le traité de Shabbat. Il n'y a pas une Gemara appropriée à Hanouka. Par exemple, Yom HaKippurim a une Gemara pour lui. Purim a une Gemara pour lui. Megillah, Yoma, Rosh Hashanah a une Gemara pour lui. Hanouka n'a pas de Gemara. Comment est-ce possible? L'une des raisons, c'est parce que des choses qui sont au-delà des notions humaines ne peuvent pas être mises réellement, fermées, cloisonnées dans un texte. Donc on va laisser la lumière de Hanouka sans l'enfermer dans une Gemara qui va finir, qui va bloquer, qui va encadrer cette fête. Alors pourquoi on la met dans Shabbat? Shabbat aussi, c'est un esprit très très fort. Et bien justement parce que Shabbat représente la lumière de l'infini, et que si on devait comparer les lumières de Hanouka à quelque chose, ce serait plutôt le Shabbat. Et c'est pour ça que lorsque la Gemara commence à nous raconter pourquoi nous fêtons cette fête de Hanouka, elle pose la question « Mai Hanouka ?» En araméen, ça veut dire « Qu'est-ce que c'est que Hanouka ? Pourquoi nous faisons cette fête ?» Et au lieu de nous répondre « Parce que 1, 2, 3, 4, 5 », on nous raconte « Bekaf He Bekislev » que le 25 du mois de Kislev, Yemei Hanouka, il y a les jours de Hanouka, Tmania Inun, au nombre de 8. Autrement dit, nous sommes ici dans une forme de langage qui est un petit peu paradoxale et difficile à comprendre. Je répète, le 25 du mois de Kislev, les jours de Hanouka sont au nombre de 8. Nous avons ici un problème. C'est-à-dire, un jour contient 8 jours. Les sages font exprès de parler de Hanouka d'une manière où quelqu'un qui ne comprend pas, il se dit, bon, ben, il y a 8 jours qui commencent à partir du 25. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. La Gemara dit précisément, le jour du 25, c'est 8 jours. Autrement dit, nous sommes dans un temps, le 25 du mois de Kislev, or 2 et 5, c'est 7, ça veut dire que nous sommes dans un monde du 7, donc le monde de la matière, le monde de la nature, qui lui est basé sur le chiffre 7, mais 8 jours. C'est-à-dire que les sages nous font ici un mariage secret, entre le chiffre 8 qui dépasse la nature et le 25 égale 7 du mois de Kislev qui est dans la nature. Donc le premier jour de Hanouka, qui est un jour naturel, un jour profane, contient en lui le Kodesh. À tel point que ça dépasse l'entendement, comment est-ce que 8 degrés peuvent rentrer dans 1 degré. Ça n'existe pas dans notre monde. Et c'est pour ça que Hanouka ne peut pas être cloisonné. On ne peut pas fermer Hanouka dans un texte normal. Et donc, on comprend ici que nous avons affaire à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Et nous le rappelons d'ailleurs, Vous savez que le Kodesh, c'est l'une des notions de la sagesse divine, on l'appelle Chochma. Dès que nous parlons de Kodesh, il faut savoir que la sphère spirituelle correspondante, c'est la Chochma. Chochma égale Kodesh. Or, la Chochma, c'est la source même de la vie. Comme dit le roi Salomon, « Veha Chochma techaye et bealea ». C'est la Chochma qui donne vie à celui qui en a. Plus tu as de la Chochma, plus tu es vivant. Donc la vie, c'est pas seulement vivre et mourir. C'est plus vivre ou moins vivre. Et plus tu as de la Chochma dans ta vie, plus tu es vivant. Moins tu as de la Chochma, plus tu t'approches de la mort et de l'exil. Et c'est pour ça que c'est très important d'acquérir la Chochma. Ça s'achète, ça s'acquiert, ça s'étudie. Autrement dit, nous devons acheter de la vie. Tout faire pour mieux vivre. Tout faire pour plus vivre. Tout faire pour que notre vie soit beaucoup plus vitale. Avec un mouvement perpétuel qui donne cette sensation d'exister, qui est une réalité. Les enfants ne s'arrêtent jamais. Ils sautent tout le temps, ils courent tout le temps. Pourtant, ils ont le temps. Où est-ce qu'ils vont? Les enfants courent parce qu'ils vivent, sans comprendre. Ils vivent, tout simplement. Quand tu commences à chercher à comprendre des choses, avant de vivre les choses, tu commences à t'éteindre. Parce que tu te fais peur. Parce que la pensée peut faire peur. Parce que tu commences à faire des calculs alors que tu oublies de vivre. C'est seulement quand tu commences à faire des calculs que tu sens les choses, mais tu as l'impression que c'est là où c'est vrai. Mais c'est faux. Là où c'était vrai, c'est quand tu vivais sans rien comprendre. Tout simplement, tu étais conscient de ta vie. Tu vis. Comme n'importe quel oiseau. Il vit. Il ne pense pas qu'il vit. Comme n'importe quelle vache, elle vit. Elle n'a pas besoin qu'on lui explique. Elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Elle vit. Ça, c'est une vie basique que nous devons avoir nous aussi. Malheureusement, l'influence de l'Europe nous a poussés à devenir des penseurs au détriment de la vie. Au lieu de vivre, on pense qu'on vit. C'est-à-dire qu'on réfléchit plus à la vie et on ne vit pas assez. Et il faut revenir au naturel de la vie qui précède toute chose. Parce que nous vivons de son être infini, qui lui est le seul existant. En od milvado. La seule existence, c'est lui, béni soit-il. Tout ce que vous voyez autour de vous, toutes les formes de vie, les arbres, les oiseaux, les nuages, la pluie, les êtres humains, les animaux, les plantes, tout ça, ce sont en réalité des milliards et des milliards d'expressions de cette seule et même unité qui est divine. Il n'y a rien d'autre. Donc chacun de nous, en fait, révèle le divin à un autre degré. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vache. Eh bien, elle révèle le même infini que vous, mais à son niveau à elle. Et donc, nous devons lui donner du kavod, de l'importance. Donc je n'ai pas le droit de tuer des animaux comme ça gratuitement. Parce qu'en réalité, tout vit de son être. Et les sages nous mettent en garde que si seulement un animal devient dangereux pour la vie, auquel cas là, c'est l'inverse, parce qu'il ne pousse plus à mieux vivre, mais il enlève la vie, alors lui, il faut se défendre. Et on peut le tuer. De là, par exemple, la mitzvah de tuer un terroriste. Parce qu'il n'est pas pour la vie, il va contre la vie, il veut tuer la vie. Donc on doit tuer cet homme. Mais tous ceux qui sont pour la vie sont légitimes. Parce que chacun révèle en fait, à sa hauteur, la même source, une. Nous ne sommes pas monothéistes, comme disent les nations du monde. Chez les nations du monde, être monothéiste, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu. C'est pas ça notre croyance. Ça, c'est évident qu'il y a un seul Dieu. Notre émouna, elle est différente. C'est qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a que lui. Et que tout vit de ce lui-là. Ça, c'est la émouna d'Israël. C'est pas qu'il y a deux dieux ou trois dieux ou un dieu. Ça n'existe pas, ça. C'est que non seulement il y a un seul Dieu, mais il n'y a rien d'autre que ce seul Dieu. Et tout ce que vous êtes, vous, ce sont que des rayons qui émanent de cette même lumière et qui dévoilent cette même lumière à différents degrés, comme un soleil avec des rayons. Les rayons n'existent pas vraiment. C'est le soleil qui rayonne. Eh bien, on n'existe pas vraiment. C'est Akadosh Baruch Hu qui rayonne à travers nous, et plus j'augmente la vie parce que j'ai la Bechira Chofshit, le choix, en tant qu'homme, eh bien plus je lui donne, en fait, la possibilité de s'exprimer dans tous les mondes. Là, par exemple, quand je parle, je dois tout faire pour que ce soit lui qui parle à ma place. C'est-à-dire qu'il utilise, en fait, ma bouche. Il utilise mon cerveau. Il utilise mes jambes pour diffuser ses valeurs. Si on arrive à vivre toute notre vie de cette manière-là, ça change complètement notre fissa, notre perception de ce que représente la vie. Et c'est pour ça que son nom, c'est le nom de la vie. Pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu que vous voyez là, ça s'appelle en hébreu Shem Havaya. À l'infinitif, c'est Lihiot, c'est être. C'est-à-dire au premier degré, c'est Ani, c'est la même chose. Havaya veut dire existence. Hove, le présent. C'est l'infini, le Yud, dans le présent, Hove. Et donc tout est Hove, mais Havayato, tout est existant de son être. C'est le nom de l'être, L apostrophe. C'est ça le vrai nom. Vous appelez en français le tétragramme, ça fait peur, on dirait qu'on parle d'un animal. Okay. C'est en réalité la source même de la vie, de laquelle tout vit. L'Ihyot, Anachnu, Hovim, nous sommes, parce qu'il est. S'il n'est pas, il n'y a rien. Il n'y a aucune vie. Alors que lui continue. Parce qu'il n'a pas voulu peut-être se dévoiler. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avant la création de ce monde. Il l'était. Mais il ne se dévoilait pas de la manière dont il se dévoile après la création. Maintenant qu'il a créé le monde, il se dévoile à travers nous. Et nous devons comprendre que son dévoilement passe par nous, essentiellement par le peuple d'Israël, parce qu'il a choisi. Pas parce que nous méritons, parce que tout simplement, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle un axiome de base. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce qu'on était bon qu'il nous a choisi. Il nous a choisi, c'est pour ça qu'on doit être bon. C'est exactement l'inverse. Et arrêter de dire ce que les autres disent, que nous sommes le peuple du livre, c'est faux. C'est le livre du peuple. Nous ne sommes pas le peuple du livre. C'est-à-dire que le livre, c'est le livre qui appartient au peuple. Le peuple précède le livre. Alou b'machshava trila, la notion Israël, c'est la première pensée de la vie. Cet être vivant qui est la racine de toute vie, il a une pensée en tête première. Cette pensée s'appelle Israël. Incroyable. Autrement dit, je vais me dévoiler. Je vais être et tout va être parce qu'il y a Israël. Donc étant donné qu'Israël c'est le début, Comment est-ce qu'on va appeler Israël? Réchit. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit Kodesh, Israël, l'Hachem. Tout à l'heure, je vous ai dit Kodesh, c'est la vie. Voilà, un verset, un prophète. Kodesh, Israël, l'Hachem. Alors, Israël est une notion de Kodesh, comme les lumières de Hanouka. Hanerot, Halalu, Kodesh, Hem. L'Hachem, pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui se diffuse dans notre monde par Israël. Donc, par le Kodesh, par le début, par le biais, Be'em Tsaoud, Réchit, le début. Et donc, je viens de vous dire le premier mot dans la Torah, Réchit, qui ne veut pas dire au début, mais par Israël, qui s'appelle Réchit. Bara Elohim et Hashamayim et Ta'aretz. Donc le ciel et la terre, et tout ce qui a été créé, ce n'est que par Israël, qui s'appelle Réchit. Premier Rashi de la Torah. Vous ne comprenez pas ce Rashi-là, ça ne sert à rien de continuer. Alors, pour tous ceux qui pensent que c'est au commencement Dieu créa le ciel et la terre, c'est faux. Bereshit. En hébreu, il y a une faute grammaticale, on ne peut pas dire Bereshit Bara. S'il y a un taf à la fin de Bereshit, c'est une smichut. On aurait pu dire Bereshit Abri'a, au commencement de la création. Non, on ne peut pas dire au commencement il a créé. Il ne peut pas y avoir un verbe après le mot Reshit. Bereshit Akai, oui. Mais pas Bereshit Bara. Donc les sages nous disent que le mot Reshit ne veut pas dire commencement, mais veut dire le nom de quelqu'un. Qui? Israël. Donc Bereshit, par Reshit, à l'intérieur de Reshit, Bara Elohim et Hashamayim et Ta'aretz. Moralité, tout son dévoilement ne passe que par nous. Et c'est pour ça que Ra'ou Kol Ha'amim, que les nations du monde, Ve'ra'ou Kishem Hashem Nikra Alecha Ve'yare'ou Mimekka. Les nations du monde devront voir que le nom est gravé sur ton front. C'était exactement ce qui était sur le front du Kohen Gadol, qui représente le peuple d'Israël. Veyareu Mimeka, ils auront la crainte. La crainte de qui? De l'infini, mais même de celui qui le représente sur terre, c'est-à-dire d'Israël. Donc lorsque les nations craignent Israël, c'est en réalité craindre Dieu. Lorsque les nations frappent Israël, elles frappent le dévoilement de Dieu dans ce monde. Elles essayent d'empêcher son dévoilement. Donc toutes les guerres d'Israël sont les guerres de qui? D'Akadosh Baruch Hu, pour se dévoiler dans ce monde. Et quand on veut éteindre Israël, c'est qu'on ne veut pas que la vie descende et nous fasse vivre. Donc, tuer Israël, en réalité, c'est arrêter la vie. Si Israël n'existait pas, il n'y a plus de véhicule pour émettre. Donc le monde est détruit. Est-ce que j'ai une preuve à ce que je suis en train de vous dire? Le don de la Torah. Gemara de Shabbat 85. Si vous ne recevez pas, vous, Israël, ma Torah, je ramène le monde au Tohu Bohu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grâce à nous qui véhiculons sa Torah, donc sa volonté, que le monde existe. Si moi je refuse d'être le canal, le monde s'arrête. Incroyable. Et donc nous devons savoir que toutes les mitzvot que nous faisons, c'est en réalité quoi? Traduire les valeurs de la vie ici-bas. C'est tout. À partir du moment où on comprend ça, on comprend qu'on est arrêté, on a affaire à une force qui dépasse l'entendement humain. On parle de l'infini, béni soit-il. C'est pas quelqu'un qui nous donne quelque chose à faire passer. C'est la vie. C'est l'infini, béni soit-il, qui est dans la source de la vie qui passe par nous. Ça veut dire que nous sommes les passeurs de lumière. Mais si je ne suis pas capable de faire passer cette lumière parce qu'elle est tellement grande, j'aurais dû exploser. Lorsque la lumière me traverse, lorsque la lumière passe par moi, j'aurais dû mourir. On est d'accord? Regardez, prenez une lampe électrique. Si vous mettez une lumière beaucoup plus forte que la capacité de la lampe, elle explose. Eh bien, Israël, c'est la lampe par laquelle le courant divin passe. Si Israël n'est pas assez solide pour capter cette lumière et éclairer le monde, eh bien, Israël aurait dû mourir, aurait dû exploser. Comment ça se passe en réalité, cette lampe électrique? Eh bien, la lampe électrique, quand vous allez acheter une lampe, vous demandez au magasin, je veux une lampe de 50, une lampe de 100, une lampe de 200. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi ces chiffres? Mais c'est sa résistance. C'est-à-dire, je veux résister 200 parce que j'ai un courant de 200. Mais si je ne suis pas résistant 200, si ma résistance est 100 et je veux faire passer un courant de 200, il y a une explosion. Donc nous, quel est le chiffre qui est marqué sur notre lampe? L'infini. C'est pas plus 200 ni 400, c'est l'infini, parce que nous faisons passer l'infini. Donc nous résistons à l'infini. Vous comprenez ce secret? C'est énorme. Et donc nous sommes le peuple lié par nature, par sa naissance, au chiffre 8, qui dépasse la nature du chiffre 7. Toutes les nations du monde, c'est le chiffre 7. Israël, c'est le chiffre 8. Donc on est surnaturel. Et c'est pour ça qu'on supporte à nous seuls la lumière divine. Quelqu'un qui veut prendre notre place, jouer à Israël, à la place d'Israël, meurt. Pourquoi quelqu'un qui est en conversion, il n'a pas le droit de faire encore les mitzvot complètement? Si vous avez quelqu'un qui est en voie de conversion, il doit faire quelque chose pour gâcher la mitzvah qu'il est en train d'appliquer. Par exemple, Shabbat, il faut qu'il se cache, qu'il aille fumer. Pourquoi? Parce que s'il fait Shabbat, il se prend pour Israël, donc il va jouer à résister à la grande lumière, il ne peut pas, il n'est pas encore juif, donc il risque de mourir. Et donc il y a marqué, Goy, chez Shamar Shabbat, un Goy qui est Shomer Shabbat, Chayav Mita, il est obligé de mourir. Il ne peut pas jouer à Israël. Or, les nations du monde, pendant toute leur histoire, c'est ce qu'elles veulent faire, elles jouent à Israël. La chrétienté veut jouer à Israël, donc elle est vouée à la mort. C'est pour ça qu'il ne reste plus rien. Les vrais chrétiens aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils se disent chrétiens, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de religion chrétienne, ça ne veut plus rien. Et donc, nous sommes ici, c'est une hakdama au cours que je veux faire passer aujourd'hui Be'ezrat Hashem. Ça veut dire que, je répète, le dévoilement de la volonté de l'infini dans ce monde passe uniquement par Israël. C'est tout, nous sommes son vecteur. Il y a des prophéties qui le disent. Atem Aedai, vous seul Israël, vous êtes mes témoins. Va'ani El, c'est pour ça que je peux être Dieu. Autrement dit, je ne peux pas être Dieu, révélation, si Israël n'est pas dans ce monde. Un autre verset dans Isaïe 43. Am zu yatsarti li, c'est l'Éternel qui parle. Ce peuple-là, cette nation-là, je l'ai façonné pour qui? Pour moi. Yatsarti li. Incroyable. Dieu dit, il nous a fabriqués. C'est-à-dire, je me suis fabriqué une résistance, ce peuple d'Israël. Pourquoi faire? Tehillati yesaferu. Parce que ce sont eux seuls qui peuvent raconter qui je suis. Ça va, c'est pas compliqué ce que je suis en train de vous dire. C'est très simple. Et donc, en réalité, le canal par lequel l'infini passe, c'est Israël. Comment on dit un canal en hébreu? Shvil. Et c'est ce que dit Rashi. Bishvil Israël. Chez vous, c'est pour Israël. Mais Bishvil, c'est Bashvil Shel. Shvil veut dire un chemin. Par le biais du chemin qui s'appelle Israël. Donc voilà, nous sommes maintenant le chemin par lequel Akadosh Baruch Hu traverse tous les mondes pour arriver dans le monde le plus bas. Nous sommes les porteurs de ce message. C'est-à-dire, donc, nous sommes la révélation. Ça va plus loin que ça. C'est que comme Dieu, c'est l'infini béni soit-il, on ne pourra jamais rien voir de lui. Il n'a pas de corps. Il n'a pas de forme. Donc, si tu devais chercher une forme quelconque qui représente Dieu, c'est qui ? Israël. Donc, tu ne peux pas voir Dieu. Tu n'as rien à voir. Même les morts ne voient pas Dieu. Il n'y a rien à voir. Alors, qu'est-ce que tu peux voir au maximum dans ta vie ? Le peuple d'Israël. Quand tu vois Israël réellement, tu vois qui ? Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est énorme. Ça veut dire que nous sommes son corps, entre guillemets. C'est à l'intérieur de nous qu'il se dévoile. Toute l'histoire où Dieu intervient dans le monde, vous avez vu quelque chose d'autre que par le passage par le peuple d'Israël ? Il n'y a rien d'autre. Dieu donne la Torah, ça passe par Israël. Dieu veut faire sortir Israël d'Égypte, parce qu'il doit libérer qui en fait ? Sa lampe. Sans sa lampe, sans son chemin, Dieu ne peut pas se dévoiler. Donc pour qui il nous fait sortir d'Égypte ? Pour lui-même. Il doit nous libérer pour avoir un conduit, pour avoir un canal. Vous comprenez, tout est à l'envers, on n'a rien compris. Et ce canal-là, il n'est pas individuel. Ce que je me fatigue à vous dire dans tous les cours. Il est Israël, peuple. Or, le Zohar HaKadosh nous dit, comme Florence a rappelé tout à l'heure, « Goy Echad Ba'aretz » seulement sur la terre d'Israël qui est peuple. Autrement dit, on ne peut pas révéler Dieu en tant qu'individu, ça n'existe pas. C'est en tant que nation sur sa terre. C'est pour ça qu'Abraham a vu nous, alors que c'était un grand homme. Quand il était à Our Kasdim, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, mais sors d'ici, tu ne m'intéresses pas ici. Il dit, mais à Kadosh Baruch Hu, je distribue des bénis à Hanouka et j'allume des veilleuses. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas, tu es en train de devenir religieux, qu'est-ce que tu fais ? Mais j'enseigne la Torah là-bas. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas, je ne t'ai pas demandé d'être un juif individuel. Ve'eitra le goy gadol, je veux que tu deviennes une nation. Donc l'ech lecha el ha'aretz, asher ha'aretz, tant que tu n'es pas sur ta terre, tu peux faire toutes les mitzvot que tu veux, mais c'est pas, tu ne peux pas. Vous savez qu'il y a une nafkamina dans la Gemara, dans la Torah, mideoraita, si on a le droit bichlal d'appliquer les mitzvot en dehors de la terre. C'est marqué où ? Dans le Kriyat Shema ? Dans le schéma que vous dites, Shema Israël, Hashem Eloheinu. Qu'est-ce qui est écrit à un moment donné ? Va avadete mehera me'al ha'aret. Hatova, quand vous allez quitter cette terre parce que vous avez fait des fautes, immédiatement après, qu'est-ce qui est marqué ? Vous continuerez à mettre les tefillin. Quel rapport ? Eh bien, le Sifri nous dit, parce que normalement, tu aurais dû arrêter de mettre les tefillin. Parce que tu es sorti de la terre, donc les mitzvot, on ne peut pas les faire en dehors. Mais la Torah, pour ne pas que tu oublies, elle te dit continue de les mettre. Même si ce n'est pas la même valeur, continue.
Mais c'est
Rashi qui dit aussi ça. C'est le Sifri. Il prend du Sifri. Quand vous reviendrez, ça ne sera pas nouveau pour vous. Mais d'après la Torah, je n'ai même pas le droit de faire les mitzvot en dehors de la terre.
Alors, c'est lui-même en Galilée ?
Tout à fait. Tout à fait.
Pendant 200
exactement. Ça veut dire que l'histoire du peuple d'Israël, elle est à deux tiers en exil, c'est-à-dire que c'est une histoire d'une grande et longue maladie. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater le moment où maintenant le peuple est sur sa terre. C'est maintenant la rédemption, c'est maintenant la guérison. Et à Kadosh Baruch Hu, comme vous l'avez bien compris, je suis content que vous ayez compris ça, c'est en réalité lui qui est en exil. Et on le dit, l'Ishu'atra qui vit nous, Kolayom. Écoutez bien, c'est pour te libérer à toi que j'espère toute la journée, je veux te libérer de ta prison. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Mais je dois revenir vivre avec mon peuple sur ma terre. Vous comprenez que les mitzvot, elles sont nationales, elles sont au niveau de la nation. elles ne sont pas au niveau de l'individu. Et plus je comprends ce secret-là, plus j'élargis en fait ma capacité à dévoiler Dieu dans le monde. En tant qu'individu, je ne peux rien faire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte s'il suffit de faire des mitzvot, on n'a qu'à rester en Égypte et ouvrir une communauté d'Alexandrie, de Babylone, avec des boucheries cachères, des restaurants, des synagogues, des yeshivot. Pourquoi? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande pourquoi il s'obstine à nous faire sortir d'Égypte. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être un peuple en dehors de cette terre. Donc toutes les mitzvot, c'est parce que nous sommes peuple. Qui a reçu la Torah? Des hommes? Non, un peuple. Qui est sorti des juifs, d'Égypte? Des juifs? Non, un peuple. Iné am, yassam et mitzraim. Je vous cite des versets, c'est aussi simple que ça. Qui a reçu la Torah au mont Sinaï? Am Israël. Pas des hommes individuellement parlant. Qui est rentré en terre d'Israël? Le peuple. C'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle une bechina. C'est pas qu'ils font Eretz Israël. Je connais cette chita, mais c'est pas en réalité Eretz Israël. C'est une bechina. C'est-à-dire un semblant d'eux. C'est une parenthèse, une bulle. Mais c'est pas la réalité. La preuve, c'est que quoi? C'est que si tu es vraiment sur ta terre, qu'est-ce que tu dois avoir? Il y a des conditions pour être un royaume sur ta terre. Il faut une monnaie à toi. Ça n'existe pas. Il faut une armée à toi. Ça n'existe pas. Tu peux pas, on va te mettre en prison si tu montes une armée n'importe où à Paris. Il n'y a pas une monnaie à toi. Il n'y a pas une armée à toi. Et il n'y a pas une économie. Et une structure étatique où je peux faire des lois. Donc ça, c'est seulement sur notre peuple, sur notre terre. Ce sont des lois. Des lois de Ilchot Melachim, du Rambam. Donc, je peux, à un moment donné, quand je ne peux pas faire autrement, être dans une bulle. Mais toute ma vie, ce n'est pas une bulle. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, tu sais, je peux vivre sous l'eau, tranquillement, avec des bouteilles d'oxygène. Et le type, il va dire, mais c'est pas normal. Vis normalement sur Terre, tu n'as pas besoin de bouteilles d'oxygène. C'est la même chose. Alors, il ne faut pas confondre des moments où nous étions obligés d'être, avec des moments où je peux faire autrement, et que je continue à maintenir cette notion maladive. Donc il faut faire attention avec ça. Alors je reprends notre cours sur Hanouka, parce que c'est important, parce que sans comprendre ça, on ne peut pas comprendre Hanouka, ni aucune fête d'ailleurs. Parce que si nous étions une religion, eh bien une religion, elle n'a pas besoin de terre. Tu peux allumer tes veilleuses de Hanouka, n'importe où dans le monde. Mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Il nous demande de venir ici pour éclairer d'ici. La lumière, elle s'appelle Ora et Torah. Et nous avons des versets, vous les dites. Ki mitzion tetse Torah. Pas de Paris. Ni d'ailleurs. Ou alors arrête de dire ces versets, tu es en train de te mentir. Udvar Adonai mi Yerushalayim. Alors c'est quoi? Je peux ouvrir un temple là où je suis? Pas du tout. C'est pas vrai, parce que même ici, quand nous sommes ici, nous devons comprendre ces notions. C'est très important de les comprendre, ces notions. Parce que vous pouvez être ici sans savoir exactement, vous dites, bon, ben, j'ai changé, juste j'ai fait un voyage horizontal. J'étais là-bas, je suis ici. On a changé de territoire. C'est faux, vous n'avez pas changé de territoire seulement.
Mais les rabbins...
Vous êtes sortis. Je ne parle d'aucun rave. Il faut leur poser à eux les questions. Moi, je suis là, je suis tout seul. Bien? Je suis tout seul. Quand vous êtes ici, il faut comprendre que vous êtes monté de votre individualité et que maintenant vous faites partie de la nation. C'est autre chose. Vous faites partie du corps de la nation, c'est autre chose. C'est un autre degré. C'est Hachem qui vous a ramené, c'est parce que vous avez acheté un billet d'avion. D'accord ? Non, je rigole pas. Tu peux dire c'est Hachem qui me fait tout, mais si tu sors pas travailler, si tu fais pas les choses, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est sûr que c'est Hachem qui nous fait, mais tu as acheté un billet d'avion. Il y a fait. Ça veut dire que tu veux réaliser la volonté de Dieu. C'est tout. Il y a une prophétie, je vous ramènerai en terre d'Israël. Qu'est-ce que je dois faire moi pour faire en sorte que cette prophétie soit vraie? Achète un billet. C'est tout. Ah, ça c'est justement, ça aggrave encore le problème. Ça veut dire que vous êtes en train d'appuyer ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que c'est pas toi qui veux pas venir, c'est que la terre ne veut pas que tu sois en elle. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas les choses comme il faut. Et ça, ce sont des calculs dans lesquels je ne veux pas rentrer, mais c'est écrit dans le Chesed le Abraham chez le Chida. Le Rav Chida, que personne ne conteste, un très très grand kabbaliste, il y a 400 ans, dit que tous ceux qui habitent en terre d'Israël, même s'ils te paraissent comme des Rechaïm, sont des Tzadikim, parce qu'ils habitent et qu'ils vivent au niveau de leur nation. Alors au niveau collectif, ce sont des Tzadikim, peut-être qu'au niveau individuel, ils font des erreurs. Donc ce sont des Rechaïm individuels, mais des Tzadikim collectifs. Et je ne vous dis pas ce qu'il dit sur l'inverse. L'inverse, c'est ceux qui vivent à l'extérieur. Comme d'ailleurs le Rambam, qui dit qu'on n'a pas le droit de sortir de la terre d'Israël. Rambam, à la côte. On n'a pas le droit, il n'y a que trois choses pour lesquelles on a le droit de sortir à condition de revenir. Justement, parce qu'il n'y avait pas de Malchut. C'est ce que je dis. Tant qu'il n'y a pas de Malchut, tant qu'il n'y a pas de possibilité, alors on essaye, mais on voit que ça ne marche pas. Mais dès qu'il y a une possibilité, dès que le temps s'ouvre, dès que le temps arrive, on ne peut plus dire non, ça n'existe pas, et vivre dans un déni. Là, il y a une royauté, il y a un retour qui est flagrant. Eh bien, est-ce qu'il y a eu une discussion entre les juifs du Maroc et les juifs d'Argentine, ou de Tunisie, ou d'Europe? Non, tout le monde sait qu'il faut venir. Tout le monde vient. Tous les jours, il y a des avions qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il y a une conscience collective de réintégrer la notion de peuple. Le prophète Ézéchiel, quand il parle des gens qui habitent en dehors d'Israël, il les appelle des ossements desséchés. Qu'est-ce que c'est des ossements desséchés? Ça veut dire une dispersion, parce qu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus de tendons, il n'y a plus rien, donc les os ne tiennent plus, il n'y a plus d'hommes, donc ils sont morts. Donc c'est une vallée remplie de morts. Et c'est Ézéchiel c'est qui? C'est Dieu qui parle à travers le prophète. « Kol ha'atsamot ha'ele bnei Israël hema » Voilà, tous ces os, c'est les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sur leur terre. Alors je te demande, Ézéchiel, de quoi faire? Hinabe al-Ha'asamot, prophétise. Je vais passer par toi maintenant, tu vas insuffler la vie, puisque je suis la source de la vie. Donc les eaux vont commencer à se joindre, ça va former, ça se recompose, les tendons, la chair, machin, tout le monde va mort, et ils montent en Eretz Israël. Donc monter en Eretz Israël, c'est à équivoir à la résurrection des morts. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, ces mitzvot, elles ont un temps. Elles ont un temps. Quand les mitzvot sont déjà terminées, qu'on n'a plus à récupérer des mitzvot, c'est que le temps est arrivé maintenant de dévoiler tout ça. Tu ne peux pas rester toute ta vie à récupérer des mitzvot. Des étincelles. C'est-à-dire des étincelles.
Raisonnement-là par rapport à tous les gens qui sont en Khoutz Laaretz, qui vont continuer à monter des bêtes à l'usage, les rabbanim qui vivent, okay. Et qui ne reconnaissent pas que l'entité des restes israéliens d'aujourd'hui, elle n'est pas celle qu'on devrait. Mais, mais juste pour rebondir, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui travaille à l'immigration. Et qui dit que tous les jours, il y a plus de 80% des Russes qui rentrent, qui ne sont même pas juifs.
D'accord.
m'excuse, hein, j'essaie de faire un peu l'avocat du diable.
Ken. Il n'a pas besoin d'avocat, le diable, mais...
Ken. Les gens qui vont écouter ce cours, qui vivent en France.
Alors, je vais vous dire...
Dernière chose aussi, par exemple, tous ces Arabes qui deviennent israéliens, aujourd'hui, c'est une invasion. On a une vraie problème, une vraie problématique à l'intérieur du pays en soi, entre les arrivées des gens qui ne sont pas juifs de naissance, tous ces émigrés qui rentrent, la problématique politique de ces Arabes qui envahissent Israël. Alors on est mélangé dans toute cette masse et on sent qu'il y a une fragilité à l'intérieur.
Pourquoi ? Parce qu'il nous manque 14 millions de juifs qui sont encore dehors. Et s'ils étaient là, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Mais vadaï, c'est pas que je pense, c'est Akadosh Baruch Hu qui le pense. C'est lui qui nous demande de venir ici. C'est pas une réflexion humaine qui me dit, attends, il faut que je passe ici, parce que c'est.
Non. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça.
Mais justement, ça veut dire... Ça ne change pas le fait que ce soit une mitzvah de la Torah. C'est dur aussi d'observer le Shabbat. Alors arrête. Pourquoi tu continues à t'obstiner à faire Shabbat ? En France ou ailleurs, les gens, c'est la journée qui marche le plus. Pourquoi tu ne te fais pas Shabbat ? C'est dur.
Mais d'un autre côté, il y a tous les gestes qu'on peut faire, avoir, etc. Finalement, ils sont guidés par Akadosh Baruch
Hu. Ah, justement. Ils sont guidés par Akadosh Baruch Hu. Donc si Akadosh Baruch Hu me montre qu'il est en train de ramener sa shrina à Sion, je dois accompagner le mouvement. Tout simplement. Parce que ils n'ont pas compris. Et la preuve, c'est qu'il y a 80% d'assimilation, dont 80% de morts. Donc alors quoi? Alors là, je suis dans 99% de vie, et là-bas, je suis dans 80% de morts. On ne voit pas la différence, c'est pas clair. Et les enfants et les petits-enfants, c'est fini. Il n'y a plus d'avenir. Mais voilà qui sont morts. Mais voilà qui sont morts. Au niveau du peuple. Au niveau du peuple, au niveau de la nation. Pas au niveau des individus. Attention. C'est-à-dire au niveau des individus, vous essayez et vous vivez, et vous essayez de faire les choses, et c'est très bien. Mais au niveau de la nation, de ce que représente le judaïsme, c'est pas moi qui le dis, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous faites partie de la nation, mais vous dévoilez pas la notion de cette nation, comme il faut. C'est-à-dire la notion doit être... Vous faites partie, vous êtes né d'une maman juive. Vous êtes partie du peuple juif. Mais est-ce que vous révélez cette hauteur-là, cette grandeur-là? Pas encore. C'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète. J'ai encore minimisé le texte. Si vous voulez, je vous dis le vrai texte. Je vous sortirai de vos tombeaux, dit Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire l'exil s'appelle un grand cimetière. Ce sont des versets du Tanakh. J'invente rien. Moi, j'ai aucun intérêt. J'ai juste un seul intérêt. C'est de dévoiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu réellement. Je suis entièrement d'accord. Une femme m'a dit la même chose quand j'étais à Nice. C'est vrai. Une femme m'a dit la même chose quand j'étais à Nice. Elle m'a dit, monsieur le rabbin, pourquoi les rabbins ici ne parlent pas comme vous? Alors je lui ai répondu, parce que tous ceux qui parlent comme moi sont déjà partis. C'est tout. C'est ça le problème. Alors de temps en temps on arrive, on essaie de faire des séminaires, des shabbatot, mais c'est une réalité. On n'a même pas commencé le cours, hein. Mais comme il fallait que j'introduise la notion de nation, et c'est contre la nation d'Israël que les nations du monde sortent. C'est vrai ? De tous les côtés. Ken, il faut acheter et avoir un bien en Eretz Israël. Ken, beaucoup plus. Et si vous avez même une idée de monter et une date de monter, vous devez faire un seul jour de Yom Tov, même en dehors d'Israël. C'est vadaï. Mais vadaï, quand il y a deux jours de Yom Tov, par exemple à Shavuot, si vous avez déjà une date de monter, vous avez déjà un appartement, une maison et tout ça, vous ne faites qu'un jour. Ken.
Il me semble qu'il y a une allez me confirmer si c'est vrai, qui dit que si dans le cas d'un couple, les deux étant juifs,
Gemara,
l'époux et l'épouse,
Gemara Ktubot,
l'un des deux peut faire l'aléa et que l'autre ne veut pas, mais pas,
Gemara Ketubot 110. Dans le traité de Ketubot 110, ce que dit Madame est vrai, si Madame veut monter en Israël et le mari non, il doit lui donner le guet. Et si l'homme doit monter en Israël et la femme non, il doit lui donner le guet et il ne paye rien du tout. Pour vous dire à quel point, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, la chose la plus importante pour lui, c'est le couple, c'est le Shalom Bayit. Et donc si à Kadosh Baruch Hu, c'est fait le Shalom Bayit pour Eretz Israël, ça veut dire ce que ça veut dire. C'en est plein. Et vous avez raison de rappeler tout ça. Je ne voulais pas trop appuyer, mais la Torah, c'est l'étude. On essaye d'être le plus émettre possible. Pas la peine de caresser les gens pour leur dire oui, c'est pas grave, machin. Moi, je dis les choses telles qu'on les a étudiées. Je donne des séminaires même à des gens qui sont des talmidei chachamim. C'est-à-dire que j'ai des confrontations. Donc, je sors des références. Je ne peux pas parler comme ça en sortant n'importe quoi. Tu peux pas me dire, oui, mais le Ravi l'a dit. Ça veut rien dire, ça, pour moi. Donne-moi des références. Là, je suis en train de vous donner des références. Regardez une autre référence, juste par hasard, parce que je l'ai apportée ce matin avec moi.
Il n'y a pas de hasard.
Eicha Rabba. Eicha. Dans Eicha et dans Yalkut Shimoni. Je vais vous donner la référence sur le traité de Eicha, sur la Megillah de Eicha. Remez, l'allusion, taf, c'est-à-dire 800 plus 2, ça fait 1000, 1038, référence 1038. Regardez ce qui a marqué. Mi, c'est Neli Bamidbar, Malon Orchim, c'est un verset de Jérémie. Qui me donnera dans le désert un hôtel pour être comme des invités? Qu'est-ce que c'est que ce verset? Je vous lis le Midrash. Amar Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu dit, Halvay, seulement si, pourvu que, Yehun bne Ami, que Moshayu Bamidbar, Shayu Malini Malay. Alors maintenant, Malon, c'est plus un hôtel, c'est Tluna, c'est-à-dire un râleur. Dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai langui le temps où mes enfants se plaignaient, qu'ils râlaient. Betachvute, Bet Israël Yoshvim al Admatam. Le peuple d'Israël maintenant est assis sur sa terre, Vayetamuota, et ils l'ont rendu impur. Amar Akadosh Baruch Hu, Halevai, Yehavund Bnei Israël al Admatam, Afilu Shemetam Imota. Qui viennent juste s'installer sur la terre, même s'ils la rendent impure. Rien que je sois à côté d'eux. Alors les gens qui ne reçoivent pas, ils sont obligés d'annuler plein de choses dans la Torah. Moi, je suis pas en train de vous raconter des salades, Ken. J'ai pas de temps à perdre.
Ken.
C'est pas que ça a aucune importance, ça a une importance, mais plus on est des hommes de conscience et de Torah, comme ceux qui sont à l'extérieur, s'ils étaient là, les 14 millions en question, il n'y aurait pas eu tout ça parce qu'on aurait été une majorité, on aurait voté différemment, on aurait un gouvernement différent. Alors si tu n'es pas là, de quoi tu râles? Tu n'es pas là pour appuyer réellement, tu n'es pas là pour mettre ton bulletin de vote, de quoi tu parles? Alors c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris cette notion de messianisme. Le Mashiach, c'est quoi? C'est Kibbout Galouyot. Et qui c'est qui le dit? Rambam. Rambam, dans les Hilchot Melachim, ou Milchamotehem, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, dit, En ben haolam hazé, les Yimot HaMashiach, et la davar echad. Qu'est-ce que c'est que le olam de maintenant et les jours messianiques? Une seule chose. Shi'abud malchuyot bilvad, quand on n'est plus assujetti aux nations. Et quel verset il va ramener de la Torah? Un seul verset. Si tu es au fin fond des cieux là-bas, regardez bien, il ne dit même pas au fin fond de la terre. Parce qu'en exil, on n'est même pas sur la terre, on est au fin fond des cieux. Tu reviendras sur ta terre. C'est-à-dire, Rambam, Maïmonide n'a une seule référence pour parler du Mashiach, c'est monter en terre d'Israël. Alors, vous pouvez faire ce que tu veux. Là où je vous amène, ça vous amène ici, tout simplement parce que je vais avec la lumière divine qui, en long, en large et en travers, me dit que toute l'application des mitzvot se fait en Eretz Israël et que c'est Akadosh Baruch Hu qui a prévu ce peuple ici pour dévoiler son nom. C'est pas par hasard que le Beit HaMikdash il est ici, il peut pas être ailleurs. Alors c'est des difficultés. C'est comme celui qui fait Shabbat et qui n'arrive pas à vivre parce qu'il fait Shabbat. Est-ce qu'on lui dit profane le Shabbat? C'est la même chose. Alors au niveau du temps, tout le monde s'arrange, c'est bizarre. Mais au niveau de l'espace, d'un coup il n'y a plus de Emouna. Pourquoi au niveau du temps tu as la Emouna? Pourquoi tu ne travailles pas Shabbat? Même si tu n'as plus rien à manger, tu ne travailles pas Shabbat. Pourquoi? Et pourquoi au niveau de la terre, c'est pas comme ça? La terre, ça s'appelle aussi Shabbat, Shabbat à Arès. Il y a plusieurs formes de Shabbat, il n'y a pas que le temps. Alors au niveau du temps, tout le monde observe le Shabbat. Yom HaKippourim, si je te force à manger, tu vas mourir pour ne pas manger. Et lorsque Kadosh Baruch Hu te dit, Ele Achukim, Vamishpatim, Asher Tziva Adonai Eloheinu Etchem, La'asot Ken Bekerev Haaretz, que toute la mitzvah et toutes les Torahs, toutes les Chukim, tous les Mishpatim, je vous les ai donnés pour les faire sur votre terre. Là, d'un coup, ça marche mieux. Alors, la notion de Hashgacha Pratit, vous la connaissez tous. D'accord? Alors, il y a une Hashgacha Pratit d'Akadosh Baruch Hu sur tout, d'accord? Sauf sur une seule chose. On ne sait pas pourquoi. Yom HaAtzmaout. Yom HaAtzmaout, il n'y a pas eu de Hashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu, il est sorti de l'histoire. Dis-moi, tu prends les gens pour des fous. Tu crois dans la Hashgacha Pratit, toi, dans ta petite vie à toi, tu t'es mis ici dans le bus, il y a quelqu'un qui est passé, ça tu crois. Il t'a pris, tu t'es dit, ah, Hashgacha Pratit. Et quand t'as Kadosh Baruch Hu, il nous donne un état, après 2000 ans d'exil, il n'y a plus de Hashgacha Pratit, il est sorti de l'histoire. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Non, elle n'est pas controversée. C'est pas la terre, c'est pas la terre qui est controversée, c'est le gouvernement. C'est pas pareil.
Ok.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ils sont presque contre Israël, parce qu'ils disent que c'est pas encore vraiment la terre d'Israël.
Ouais, qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas encore vraiment la terre d'Israël? La terre d'Israël, c'est toujours la terre. Le gouvernement, ça peut être autre chose, mais la terre, c'est la terre. Ah, le comportement des gens. Alors, je vais vous citer tous les rois d'Israël, à commencer par Ménaché. Ménaché était le plus grand rachat, et pourtant il s'appelle Mélèque. Mais comment tu fais pour avoir un roi aussi rachat? Pourquoi tu continues à l'appeler Mélèque? Pourquoi tu n'enlèves pas du Tanakh? Jéroboam, pourquoi il s'appelle Mélèque Israël? Enlève-le. Ça veut dire que dans le peuple d'Israël, il y a eu des périodes où il y a eu des rois. On les appelle encore des rois. Donc c'est un gouvernement. Et pourtant, c'était des mécréants. Alors pourquoi tu continues à les appeler des rois? Et c'était la malchoute d'Israël de cette époque. Est-ce que j'ai le droit de voler aujourd'hui les impôts israéliens? Oui ou non? Pourquoi?
C'est
un commandement de quoi? C'est la loi. Alors Rav Ovadia Yosef, Ken Alav Shalom, dit qu'on n'a pas le droit de voler Matarnata. Pourquoi? Mishum Dina de Malchuta Dina. Parce qu'il y a un din de Malchut dans le gouvernement d'Israël aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un royaume. C'est une royauté. Et t'as pas le droit de voler la royauté. Qu'est-ce que vous voulez encore des références jusqu'à demain matin, je peux vous en donner. C'est pas ça le lien du cours. Je vous dis clairement que les gens qui essayent de se camoufler, ils vont chercher tout ce qu'ils peuvent. Et les excuses les plus grandes. Et si vous me citez des grands rabbanim, je vais vous citer les 10 plus grands rabbanim de l'histoire. On les appelle les explorateurs. Il n'y avait pas plus grand qu'eux. Et ils se sont plantés? Oui. Et ils ont dit au peuple de ne pas monter? Oui. Alors, leur langue est devenue jusqu'au nombril, trace de shalom avec des vers qui ont tout bouffé de l'intérieur. Alors quoi? Vous me prenez des références de grands rabbinim? Voilà les explorateurs, Gdolé Israël, Raché Israël, Emma. Ils sont plus marqués dans la Torah. Les rabbinim que vous me citez, ils ne sont même pas marqués dans la Torah. Ceux-là, ils sont marqués dans la Torah. Alors quoi? Jusqu'où on peut aller dans le déni? C'est une maladie, le déni. Il y a des femmes qui arrivent, qui ont mal au ventre, et elles ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Je rigole pas. Le ventre n'est même pas gonflé. Le bébé, il pousse à l'envers. Et elles rentrent avec des maux de ventre, et on leur dit, mais vite, rentrez-là dans la salle d'accouchement. Elle ne sait même pas qu'elle était enceinte, elle n'a pas eu de ventre, elle n'a rien eu. Mais bye-bye, ça existe. Alors moi, je refuse de vivre dans un déni. Quand Akadosh Baruch Hu dévoile en face de moi tout ce qu'on est en train de faire et que toutes les prophéties sont en train de réaliser devant mes yeux, en 70 ans, on a fait ce qu'un pays ne peut pas faire en 1500 ans. Quoi, je suis un fou. Akadosh Baruch Hu, quand je vais arriver en face de lui, il va me dire, mais dis-moi, je t'ai envoyé tout. Tout était clair devant toi. Pourquoi tu as été dans le déni? Qu'est-ce qu'il te fallait? Quoi? S'il y a une main qui descend du ciel, il n'y a pas, puisque je suis invisible. C'est le peuple d'Israël qui avait une armée, qui avait un état, qui avait une économie florissante, qui avait... Gainara, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Bien fait. Je suis entièrement d'accord. Là, vous commencez à parler sérieusement. On s'est fait une idée. Il a fait. Alors il faut étudier. Il rote Mashiach, qu'est-ce que c'est exactement? Et vous allez voir que c'est pas ça. Je suis d'accord, l'individu va venir, mais il a une structure sur laquelle il va. Le Mashiach, c'est quoi? C'est un rabbin ou un roi? Un roi. Melech HaMashiach, c'est un rabbin. Quand Rabbi Akiva, c'est le grand rabbin de l'époque. Tout ce qu'on étudie, c'est Rabbi Akiva. À côté de lui, il y avait un type qui n'était pas du tout rabbin. Il s'appelait Bar Kokhva. C'était le Ramatkal, c'est-à-dire le chef des armées. Comme aujourd'hui, Kochavi. Et Kokhva, Kochavi. Hein? Rabbi Akiva, à cette époque-là, il aurait dû dire que le Mashiach, c'était qui? Lui-même. C'est le grand rabbin. Il pas du tout, le Mashiach, c'est pas moi. Le Mashiach, c'est lui, c'est le Ramatkal, c'est le chef des armées, Bar Kokhva, qui n'est ni rabbin, ni rien du tout. Et moi, je vais porter ses instruments de guerre et je vais courir derrière lui. Dites ça à quelqu'un aujourd'hui. Alors quoi? Vous comprenez? Rabbi Akiva, c'est la base de toute la Torah orale que nous étudions. Il nous donne l'exemple de ce que c'est le Mashiach, c'est un roi. Pas besoin d'être rabbin. Qui connaît la Torah et tout ça, Baruch HaShem. C'est pas un rabbin. Aujourd'hui, on a transformé le Mashiach en rabbin. Mashiach, c'est un roi. Un roi, il doit avoir une économie, une structure politique, une armée. C'est ça, un roi.
Ça peut être une personne du gouvernement.
Ben,
quel? Quel?
Le Rav Kook a envoyé des lettres à tous les rabbinim de la Shoah, avant la Shoah, en leur disant, faites attention, on a reçu une prophétie du Maharal et du Gaon de Vilna, en disant que ceux qui vont rester et qui ne monteront pas en Eretz Israël, ils auront Chas v'Shalom des choses très difficiles, ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. On a la lettre. On a la lettre. On a les lettres du Rav Kook. Les gens n'ont pas écouté. Il y a un livre qui s'appelle Em Habanim Semecha. Ça fait peur. Ça fait peur, ce livre. C'était un des plus grands rabbins anti-sionistes de cette époque-là, qui disait, ouais, arrêtez avec cette bêtise-là, en Israël, ils vous ont tourné la tête. Il est tout par cœur, il était dans la Shoah, il était dans les fours, presque. Il a dit, je fais tchouva, j'espère qu'un jour Dieu me pardonnera, parce que je n'ai pas enseigné à mes élèves qu'il fallait monter en Eretz Israël. Et maintenant, tout le monde est rentré dans les fours crématoires, et je suis le prochain. Et j'écris ce livre pour faire tchouva et faire le tikkun des meraglim que nous étions. Parce que nous allions de maison en maison en disant, ne faites pas l'alia, c'est dangereux, vous allez perdre votre Torah, vous n'allez plus rien faire. Et lui, il fait tchouva sur ça, il dit, je ne sais même pas si un jour je serai pardonné. Et il est parti comme ça de ce monde en nous laissant ce livre. Rabotai, je ne peux pas parler à la place d'autres personnes. Moi, je vous dis des références. Si je mentais, si je venais vous dire, vous savez, Machita, elle est comme ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous donner des références. Je suis en train de vous donner du Zohar. Vous savez ce que le Zohar, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit que Moshe Rabbeinu, dans le livre de Dvarim, dommage qu'il n'y a pas ici, dans les livres de Dvarim, il y a marqué Atem, El Hashem Elohechem, Dieu, votre Dieu. C'est Moshe qui parle. Et le Zohar HaKadosh pose la question, pourquoi Moshe n'y dit pas notre Dieu, quoi, il ne fait pas partie du peuple d'Israël? Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav HaShalom. Étant donné que Moshe n'est pas rentré en terre d'Israël, il ne peut même pas dire que c'est son Dieu. Il n'y a que ceux qui sont rentrés, il leur dit votre Dieu, parce que vous, vous allez rentrer en terre d'Israël. Moi, je n'ai pas de Dieu. Et de là, la Gemara va tirer une conclusion. Kol ha-gar bechutz la'aret domé ke mi she'en lo Elohim. Tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Alors, combien de références? Je vous assure que je fais en sorte d'être très doux. Ils ne peuvent pas répondre. Je donne des séminaires à des grands rabbinimes. Je donne des séminaires là-bas. Parce que je leur donne des références. Je leur dis, parle-moi avec des références. Ne me dis pas, celui-là il m'a dit. Ils n'arrivent pas à me donner des références. C'est pour ça que la plupart arrivent, Baruch HaShem, de plus en plus. Les gens comprennent. Je ne voulais pas être méchant. Les méraglimes, c'est ce que dit le Zohar. C'est ce que dit le Zohar. Hein? C'est de ne pas perdre leur clientèle et leur machin là-bas. Et leur cabot là-bas. Le Zohar, il dit ça. Hein? Ça c'est ça. Je sais. Exactement. Rabotaï, c'était pas le... C'est incroyable comment Akadosh Baruch Hu il fait les trucs, parce que c'est pas de ça que je voulais parler. Hein. C'est incroyable. On dirait que c'était... Akadosh Baruch Hu, c'est ta maman. Hein. Là, c'est sûr qu'elle est là. Hein. Là, c'est ta mère qui est venue, elle est rentrée, elle nous a perturbé le cours, là. Alors, elle est là, hein. Je peux te dire qu'elle est là, parce que moi, j'ai pas prévu, regarde, Hanouka. J'ai même pas fait un mot. Donc, ta maman est là, hein. Tu peux être tranquille. Hein.
Ma maman, elle est là, ma soeur, elle est là, et j'aimerais qu'elle fasse
son avis. Je connais votre sœur depuis à peu près 45 ans. Plus même. On était ensemble à Nice et c'était mon modèle. J'ai même travaillé avec elle. D'accord? C'était mon modèle. Et elle m'a fait changer certaines choses dans ma vie et tout ça, à certaines périodes de ma vie. Oui, je le reconnais. Et Baruch HaShem, j'étais le plus heureux du monde quand je l'ai vu venir, et je vous souhaite la même chose. D'ailleurs, quand je l'ai vu rentrer tout à l'heure, ça m'a fait une simcha parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. C'est pas elle, c'est tout un groupe. Pensez à vos enfants, mettez l'avenir au présent. Imaginez-vous, vous avez un garçon de 18 ans, pourquoi qu'il ne sortirait pas avec une belle Goya? Elle est gentille, elle va être gentille, la fille. Vous savez, un homme, c'est un homme. Encore une fois, on ne peut pas être garanti de ça, Chas v'Shalom, puisqu'il y a 80% de gens qui sont tombés. 80%, alors quoi? On ne peut pas dire non, moi non, chez moi ça ne se passe pas. Alvaï. Il faut faire très attention. Moi, je ne vous dis pas ça parce qu'il y a des calculs humains. Je vous dis ça parce qu'Akadosh Baruch Hu nous le demande. C'est tout. Pas moins que fais Shabbat et mange kasher. Tu te tues pour manger kasher? Pourquoi tu ne te tues pas pour venir? C'est la même chose. Alors, il ne faut pas se tuer. Au contraire. Ici, c'est la vie. Et si on a une confiance en Akadosh Baruch Hu, eh bien, on vient et Akadosh Baruch Hu ouvre les portes. Et Baruch HaShem, chacun va trouver sa place. Et Akadosh Baruch Hu ouvre la Parnassa et la Bracha et dans tous les domaines. Alors il y a des difficultés, c'est vrai, il faut s'adapter. Mais même une femme qui accouche, elle a des difficultés. Alors c'est pour ça qu'elle ne tombe plus enceinte. À chaque fois, elle retombe dans le même système. Alors, il y a des douleurs, il y a du sang, il y a des os, il y a des machins, des hurlements, des... Et ce matin, tout ça pour un bébé? Alors, pourquoi là, on accepte? Mais c'est la même chose. Les Chachamim nous disent que l'enfantement du Mashiach, c'est comme une naissance. Et je vais vous donner une parabole. Je vais vous donner une parabole du Rav Kook qui un jour est allé voir des communautés ici en Eretz Israël qui sont arrivées de Houtlari. Et un très grand Rav est venu le voir et lui a dit, Kvodarav, pourquoi vous nous dites tous de monter en terre d'Israël? Le peuple d'Israël, il souffre, peu importe là où il est. Là-bas, en dehors d'Israël, on souffre tous. On a tous envie de monter, on ne monte pas, on souffre, on n'est pas bien, l'égoïme nous crache dessus, ils nous font des malheurs, ils nous tuent, ils nous frappent. Et ici, en Eretz Israël, vous avez la même chose, vous avez des Arabes, vous avez des machins et des machins, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que le Rav Kook a répondu? Il aura dessiné deux lits avec deux femmes allongées sur ce lit. Vous voyez, le peuple d'Israël, effectivement, il est souffrant. Deux hôpitaux. Mais il y a une différence. À gauche, c'est une femme qui est en train de mourir. Et à droite, c'est une femme qui est en train de donner la vie, qui va accoucher. Alors, quand il le regarde, elles sont toutes les deux assises, couchées sur un lit d'hôpital. Mais l'une est agonisante et l'autre va donner la vie. Voilà la différence entre le judaïsme de l'exil et le judaïsme des réfugiés. C'est fini alors, ça y est, si j'ai eu les applaudissements. Non, moi j'ai eu les applaudissements, je ne sais pas. Ou alors vous m'applaudissez encore plus après. Hein. Je ne peux pas redescendre. Donc, on va détendre l'atmosphère parce que je vous ai plombé un peu.
On peut dire qu'on avait des sentiments qui devaient faire beaucoup de choses, Baruch HaShem.
Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait.
Et on a, donc c'est difficile de monter en RF et de faire tout ce sacrifice parce que si on ne les avait pas eus, on ne s'en serait même pas rendu compte. C'est d'ailleurs pourquoi les Israéliens eux-mêmes qui sont venus ici.
Tu sais ce que tu me rappelles? Il y a un Moshe qui a perdu un diamant. Non, mais je te dis juste que Moshe, il a perdu un diamant dans un tas de sable. Et il a dit à tous les voisins du quartier, venez m'aider à trouver le diamant. Donc ils sont tous descendus, ils ont commencé à déblayer le sable. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, on n'en peut plus. Tout le monde est parti, ça y est, c'est ça. Il n'y a que Yitzhak qui est resté avec son copain Moshe. Et il se fatigue jusqu'à la fin de la journée, il dit, Moshe, dis-moi la vérité. Tu l'as perdu ici, le diamant? Il dit non, je l'ai perdu là-bas. Et alors, pourquoi on cherche? Il dit c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Mais j'en ai rien à faire, moi, de cette lumière, si le diamant, il est ici, en terre d'Israël. Qu'est-ce que tu me parles de bien et de machin que tu as là-bas? Le diamant, il est là. Alors, Bezrat Hashem, ce que je vous dis, c'est avec beaucoup d'amour, c'est Chas V'Shalom. Au contraire, on est tous là juste pour éclairer ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Moi, je ne suis pas là pour autre chose. Et Akadosh Baruch Hu est témoin. Si je vous raconte des histoires, tout ce que je vous dis, ce sont des références solides, vraies. Moi aussi, j'ai fait ce travail. Moi aussi, j'ai été à droite, à gauche, et j'ai vu plein de chitos et plein de machins avant d'arriver à ce que je suis aujourd'hui. J'ai cherché, moi aussi. Pour trouver une vérité, pour trouver ce que Akadosh Baruch Hu, il veut pas, ce qui m'intéresse à moi. Je suis arrivé à cette conclusion. Si je veux être émettre, je peux pas. Ou alors je mens. Je peux pas me regarder dans le miroir et me dire tu t'es menti toute ta vie. Non. C'est obligé d'être cohérent. C'est tellement simple, c'est tellement sain. C'est une Torah de vie. C'est la Torah d'Eretz Israël. Tout ça pour vous dire que Hanouka. Comment je vais rentrer maintenant dans Hanouka?
Il vous reste 5 heures.
Aïe. Donc, Je vais vous dire la vérité, c'est que tout l'exil de la Grèce, qui est l'exil de Hanouka, c'était pour empêcher une seule chose, le gouvernement d'Israël. Et c'est pour ça que la correction, après avoir combattu les Grecs, qu'est-ce qu'ont fait les Kohanim ? Un gouvernement. Alors qu'ils étaient interdits normalement d'être rois, puisque c'est des Kohanim, ils n'ont pas le droit d'être rois. Encore un exemple de rois qui ne devaient pas être rois, qui sont devenus rois momentanément. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que l'essence, c'est pas juste de venir et former un club ici, c'est d'avoir une souveraineté. Et tant que j'ai pas une souveraineté, je peux pas faire de fête. Donc si je fais le Hallel à Hanouka, c'est parce que je fais le Hallel sur quoi ? Sur la souveraineté d'Israël récupérée. C'est pour ça qu'on fait le Hallel complet. Ce matin, j'ai lu le Hallel complet. Avec la bracha, l'igmor et ta Hallel. Pourquoi ? Parce que c'est l'essentiel. Et comment est-ce qu'il commence le Hallel ? Alléluia, Hallelu Avde Hashem. Encore référence. Les Chachamim nous disent que quelqu'un qui est en dehors d'Eretz Israël ne peut pas dire le Hallel. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas le Eved d'Akadosh Baruch Hu, il est le Eved de la nation dans laquelle il vit. Alors tu es en train de te mentir, tu dis Hallelu Avde Hashem. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas par exemple le Hallel à Purim. Parce que ils étaient restés encore après la fête, là-bas. Ça vous suffit pas comme exemple. Et qu'est-ce que c'est que Hanouka ? Je vais terminer avec ça, dans les 10 minutes qui nous restent. C'est en réalité amener la lumière d'Hachem, puisque c'est nous le canal par lequel ça coule. C'est d'amener cette lumière à la partie la plus basse de l'existence, c'est-à-dire aux jambes. Quand l'ange de Yaakov, l'ange de Esav, qui a combattu Yaakov, vous voulez encore une référence ? Ça vaut ? Celle-là, elle fait mal. Hein. Elle fait mal, cette référence. Le Marat de Khoulin à la page 91b. Tout est marqué, hein, c'est enregistré. Hein. Tout ce que je vous dis, je peux vous raconter n'importe quoi. C'est vrai. Les Chachamim vont dans une résolution extraordinaire. Ils nous disent à quoi ressemblait l'ange exactement, celui qui a combattu Yaakov. La Gemara nous dit deux possibilités. Première possibilité, que Goy Nidmelo. Il lui est apparu comme un Goy. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le Goy ? Je veux pas que tu montes parce que tu vas fonder une nation sur ta terre et ça va embêter tout le monde. Ben, on connaît. Donc Yaakov, quand il entend le goy, qu'est-ce qu'il lui dit ? Vache ta mère, moi je rentre chez moi. D'ailleurs, quand est-ce qu'a eu lieu le combat avec l'ange ? La nuit de la Alia. Ah, n'importe quelle nuit. La nuit à l'aéroport, il était. Il voulait de la lumière, hors lit. Il voulait un roi, roi si. Il était à l'aéroport. Le soir de son alia, c'était. Mamash. Ça, c'est la première version. La deuxième version, elle fait mal. Que Talmit Chacham Nidmelo. Il s'est déguisé en rabbin. L'ange de Esav. Hein? Et il est venu voir Yaakov, il a dit, ça va pas, non ? Tu vas monter, tu vas perdre ta Torah, comment tu vas faire pour travailler ? Tu peux pas faire ça à tes enfants, tu n'as pas le droit de monter en Eretz Israël, tu n'as pas le droit de... Gmara ! Gmara, pas Yoel, Gmara ! Même pas Kabbalah, Gmara ! C'est fort ça ? C'est extraordinaire, c'est. C'est pas fort, c'est extraordinaire. Ça veut dire que les sages avaient déjà la conscience qu'on va venir vous perturber, vous embrouiller, pour vous faire peur, pour vous paralyser, pour ne pas que vous veniez vivre, tout simplement. C'est le Yetzer Hara, tout ça. Déguisé en rabbin, déguisé en ce que tu veux. Gmara ! Chemishmor. Tant qu'il vient en forme de goy, c'est facile. Mais quand il vient déguisé en ce que toi, tu crois qu'il y a une confiance totale, comment tu fais maintenant ? Regardez ça, c'est terrible. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand moi je suis monté, quand moi je suis monté, un grand rabbin de là où j'étais, peu importe, elle connaît, est venu me voir et m'a dit, tu vas perdre toute ta Torah. C'est-à-dire, et moi, comme un jeune de 30 et quelques, je lui ai dit, non seulement je ne vais pas perdre ma Torah, j'aurai, Be'ezrat Hashem, des dizaines de milliers d'élèves, comme ça je lui ai dit. Et toi, Kvod Harav, tu resteras avec maximum 5 élèves. Écoutez bien, je ne savais même pas ce que j'avais prophétisé. Il n'a même pas 5 élèves, et aujourd'hui, bien à Inara, dans chaque cours internet, il y a 80 000 vues. Que je fais. Où est la Torah, Chas v'Shalom? De quoi il m'a parlé? De quoi? Et demain, Be'ezrat Hashem, je vais au Sioum de Masloul de mon fils qui est commando à l'armée. C'est quoi? Il y a une plus grande fierté que ça. De quoi il m'a parlé, lui? De quoi il est encore paumé là-bas? Shtabach Shemolad. Rien que pour ça, je pleure de joie. Je demande à Kadosh Baruch Hu merci de m'avoir sorti de cette torpeur-là. De cette glu. C'est une glu, c'est une colle. Et ceux qui sont là-bas, on le sait, on est tous, on est venus là-bas. C'est une colle, c'est une glu. Tu peux pas, tu sais pas comment, par où commencer. Tu es paralysé, tu es angoissé. On dirait que tu vas vers la mort. Alors que tu vas vers la vie. C'est comme un bébé qui va sortir du ventre de sa mère. Vous savez qu'à l'intérieur, il a peur, le bébé, de sortir. Parce qu'il est bien. C'est Luna Park. Il est dans un bain, température ambiante. Il est dans l'eau toute la journée. Et presque, tu lui mets une cigarette, il est tranquille. Il étudie la Torah toute la journée. Il y a un ange qui vient lui enseigner la Torah. Je vous invente rien. Gemara, Nida, à la page 30. Il n'a pas besoin de vêtements, il mange à l'œil, même pas de la bouche, ça veut dire qu'il est tranquille. Il y a un cordon directement chez la maman, il n'a presque aucune maladie parce que la maman le protège. C'est incroyable, ça c'est comme les juifs dans le désert. Et un jour on lui dit, mais oh, il faut sortir maintenant, on va couper le cordon. Il dit, non, laisse-moi tranquille, moi je veux rester ici. C'est exactement pareil. Et la sortie, c'est quoi? Bien, c'est un passage, il va y avoir du sang, on va lui me flétrer la tête comme ça, il va sortir. Il lui faut 2 jours pour se reprendre sa forme, tellement il est déformé, le khayeb. C'est exactement ça, le bébé, c'est un traumatisme. Tous les problèmes que vous avez dans la vie, de peur, c'est au moment de l'accouchement. Ce que vous avez fait au moment de l'accouchement. Les gens qui ont peur du vide, c'est parce qu'ils n'ont pas été tenus par le médecin quand la tête est sortie. Les gens qui ont peur du... Plein de choses. Eh bien, c'est exactement pareil. Et pourtant, le bébé, il sort. Et ceux qui sont dehors, tout le monde, ah, mazal tov. Quand il était dedans, personne ne le regarde, les classes. On lui compte même pas sa vie. On dit, aujourd'hui, c'est un jour. Et j'ai 9 mois et un jour. Non. Tant que tu es en exil, tu ne sais même pas compter, en plus. Quand tu viens en Eretz Israël, tu commences à vivre, donc c'est le premier jour de ta vie en tant que nation. Toda rabba.
Rappeler que le cours, il a été à la mémoire de ma maman, à la
bataille. Eh bien, je vais te dire, c'est même pas la mémoire, elle est là.
Et moi, je suis ma Claudine Khamisha Batoriel.